Africa.
Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et dans le grand rendez-vous ce soir, conflit au Proche-Orient, la désescalade est-elle proche? Nous en parlerons dans quelques instants avec nos invités. Mais d'abord, évoquons les conséquences du délestage sur les entreprises ivoiriennes.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Stéphane Aka Angui, bonjour.
Bonjour madame.
Directeur exécutif de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, le patronat ivoirien. Quelles sont selon vous les causes des délestages récurrents dans la fourniture d'électricité en Côte d'Ivoire?
D'abord les causes, ce n'est pas selon moi, c'est selon les spécialistes du domaine de l'énergie. Il y a quatre causes. C'est un déficit de pluviométrie qui empêche la Côte d'Ivoire d'utiliser ses capacités installées en matière de barrages hydroélectriques. Un déficit de près de 500 mégawatts côté hydroélectrique. Ensuite, la deuxième raison, c'est un certain nombre de projets qui auraient dû être déjà opérationnels, dont certains en fin d'année dernière ou d'autres cette année, trois projets, solaire, gazier et énergie thermique, qui n'ont pas pu aboutir à cause de la Covid. Les matériaux de construction ne sont arrivés en Côte d'Ivoire que récemment. La troisième, c'est quelque chose que tout le monde connaît, y compris le Ghana actuellement. Ce sont des incidents, malheureusement, longs et répétés sur un certain nombre de capacités installées. Et enfin, la dernière raison évoquée par les professionnels, c'est que compte tenu de la chaleur, la demande actuellement est un peu supérieure aux prévisions.
Mais d'après un responsable de la Compagnie nationale d'électricité, cette situation est aussi due à des pannes sur la centrale thermique d'Azito qui produit le tiers de l'électricité du pays quand même.
Voilà, c'est ce que j'appelais des incidents répétés qui touchent des capacités installées, dont Azito, mais pas seulement.
Est-ce que le gouvernement n'a pas manqué d'anticipation aussi?
Je ne pense pas, parce qu'on n'a pas senti le délestage, justement, parce que le gouvernement avait anticipé et a anticipé jusqu'au maximum des stocks de réserve.
Comment ce déficit en électricité impacte-t-il les activités économiques?
La difficulté, si vous voulez, en Côte d'Ivoire, l'impact, il est quand même assez important sur le secteur industriel, parce que le déficit d'électricité pèse à 75% sur les industriels. Les ménages, les consommateurs sont très peu touchés et donc c'est des industries qui sont touchées et qui se sont vues imposer, j'allais dire, un programme d'effacement. Donc au début très dur, 12 heures de courant tous les 48 heures et puis progressivement les choses s'améliorent. Et donc, du coup, ça impacte la capacité de production. On n'est pas capable de produire ce que les entreprises produisaient normalement. Et puis, surtout, on doit pallier à ce déficit d'énergie en recourant à des groupes électrogènes, ainsi de suite, qui induit forcément une hausse de la facture énergétique parce que l'énergie produite par groupe électrogène coûte 3 à 4 fois plus cher que l'énergie produite par la compagnie ivoirienne d'électricité. En fait,
il faut investir dans l'achat du carburant pour approvisionner ces groupes électrogènes.
Il faut investir dans l'achat de carburant, il faut investir dans l'achat de groupes électrogènes, il faut parfois investir dans l'achat de citernes parce que ça consomme un carburant et n'est pas sûr d'être livré tout chaque jour. Il faut faire des stocks de gasoil. Donc c'est baisse du chiffre d'affaires et hausse des charges.
Est-ce que c'est cela qui explique, par exemple, l'augmentation du prix de ciment et aussi pour certaines boulangeries, les prix du pain?
Oui, en partie. Il y a un effet psychologique de crainte de la rareté et puis il y a un effet réel d'augmentation des charges de certains industriels.
Est-ce que les entreprises sont en mesure de tenir sur une longue durée face à cette situation de délestage?
Ça dépend des secteurs, mais de manière générale, le gouvernement estime que dans moins de deux mois, le problème sera réglé. Et donc, aujourd'hui, nous sommes le 17 mai, il s'agit de tenir 6 semaines, les industries pourront tenir. Mais le coût sera quand même assez important.
Et qu'est-ce que vous espérez du gouvernement?
Disons que ce que l'on a demandé, certaines choses on a demandé que l'on a déjà obtenues. Hein, on a été reçu très rapidement par le Premier ministre lui-même. On lui a demandé de mettre en place un comité qui s'est mis en place dans lequel la CGC siège, qui se réunit tous les jeudis et parfois plus, et on aborde les questions au fur et à mesure au sein de ce comité-là. Donc, voilà, ce qu'on a demandé, par exemple, c'est de tenir compte de la spécificité des entreprises dans la fourniture d'électricité. Donc, on a obtenu que certaines entreprises aient de l'électricité pendant 48 heures en continu, voilà, qui leur permettent de bien travailler. Ensuite, elles ont 2 ou 3 jours pendant lesquels elles n'ont pas d'électricité. Donc, ça, nous l'avons demandé, nous l'avons obtenu. Et nous demandons aussi à l'État de s'assurer la disponibilité en gasoil.
Qu'est-ce qu'il faut, selon vous, pour résoudre durablement, sinon définitivement, cette question de déficit énergétique en Côte d'Ivoire?
Vous parlez comme si c'est quelque chose de très récurrent. C'est une situation qui nous est arrivée 2 fois. La dernière fois, c'était en 84. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire a une capacité installée bien supérieure à cette capacité de production, qu'on connaît une crise ou une pénurie conjoncturelle, donc, et que malgré ça, ces dernières années, vous avez vu que on est passé de la Côte d'Ivoire à électrifier beaucoup, beaucoup plus de villages. Donc, je ne pense pas qu'on soit dans quelque chose de structurel.
Stéphane Aka Angui, merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Directeur exécutif de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, le patronat ivoirien à Abidjan.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
18h15 à Paris, bienvenue. Nous parlons ce soir dans votre émission des tensions dans le Proche-Orient avec ce conflit israélo-palestinien et les chances de désescalade ou de sortie de crise. Et nous en parlons avec 3 invités. Bertrand Hébron, président de l'association France-Palestine Solidarité. Monsieur Hébron, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Eric Goslan, franco-israélien, directeur d'International Council for Diplomacy and Dialogue, auteur aussi de l'article « Nouvelles tensions entre Israël et Palestine, les raisons ». Monsieur Goslan, bienvenue.
Merci, bonsoir à tous.
Bonsoir à vous. Bonsoir Emmanuel Dupuis.
Bonsoir.
C'est toujours un plaisir de vous accueillir, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, IPSE. Alors, je vais commencer peut-être par M. Goslan, puisque vous avez publié un article sur les raisons, dites-vous, de ces nouvelles violences. En tout cas, pour l'instant, le bilan des frappes aériennes sur la bande de Gaza et des tirs de roquettes contre différentes villes israéliennes ont fait, en une semaine de conflit, au moins 200 morts côté palestinien, dont 58 enfants. Ça, c'est le bilan qui a été dressé par les autorités palestiniennes et 10 côté israélien. Mais peut-être avant de revenir sur ce bilan, dites-nous, d'après vous, qu'est-ce qui a causé cette nouvelle flambée de violence?
Alors, tout d'abord... Moi, je suis toujours désolé quand il y a des morts d'un côté ou de l'autre. Je ne fais aucune différence. Un mort est un mort de trop. Et lorsqu'on ne peut pas dialoguer, on arrive à une guerre. Donc, c'est un sentiment d'échec qu'on a. Alors, pourquoi un tel embrasement qui, d'un coup, a surpris tout le monde? Plusieurs choses. Je pense qu'une des premières choses qu'il y a eu... c'est qu'il devait avoir des élections en Palestine et c'est malheureusement M. Abbas a refusé de faire ces élections comme la dernière fois. Alors l'excuse qu'il a donnée était que le scrutin devait être reporté jusqu'à ce que, je vais le citer, le scrutin est reporté jusqu'à ce que notre peuple puisse exercer des droits démocratique à Jérusalem. Alors, pour moi, c'est un prétexte parce que Abbas savait très bien qu'Israël n'autorisera jamais le vote à Jérusalem comme il l'avait déjà non autorisé en 2006. Je pense qu'une des raisons est que M. Abbas avait peur de perdre des élections. La deuxième raison, je pense que les Palestiniens, depuis quelques années, ne sont plus du tout au cœur de l'actualité. On parle plus du tout des Palestiniens. On voit avec les accords d'Abraham qui ont mis complètement de côté le problème israélien, le problème palestinien. Et pourquoi? Parce qu'avant, tout le monde pensait que ce conflit israélo-arabe pouvait se résoudre qu'avec l'accord des Palestiniens. Donc, c'est les Palestiniens, une branche des Palestiniens, je dis bien, pas tous les Palestiniens, se sont sentis trahis depuis que les États arabes ont signé cet accord. En plus, comme on le sait, il y a eu la crise de la Covid-19 et plus personne ne parle des Palestiniens dans le monde entier.
Merci,
donc,
monsieur.
Je pense que c'est les raisons dont je pense.
Donc, pour nous résumer, Mahmoud Abbas a peur de perdre les élections. Il contribue à déclencher la crise. Et vous aussi, vous dites également que les Palestiniens, sentant que leur crise est en train de devenir une crise oubliée, essayent de faire parler d'eux, ou bien essayent de ramener leur crise sur la scène internationale et provoquent la violence. Dites-vous, est-ce que vous êtes d'accord, M. Elbrom, sur ce diagnostic fait par M. Goslan?
Bon, évidemment que non. En fait, il y a quand même un point sur lequel je serais d'accord, c'est qu'il y avait une très grande attente de la population palestinienne par rapport à ces élections, et que effectivement, les Palestiniens ont besoin de renouveler leurs dirigeants politiques et de retrouver l'unité. J'ai un peu de mal à comprendre quand même comment Israël peut prétendre être en faveur de ça quand finalement il a tout fait pour approfondir, pérenniser la division palestinienne avec la division géographique entre Gaza et le reste de la Palestine occupée. Et puis, il faut quand même bien dire, au niveau de ces élections, bien sûr que si, Jérusalem, ce qui était demandé, c'était au moins quelques milliers de Palestiniens puissent voter dans Jérusalem, les autres pouvant voter en périphérie. Et ça, effectivement, Israël l'a refusé avec beaucoup d'intransigeance. En même temps, il faut le rappeler, qu'Israël mettait des checkpoints partout pour empêcher la campagne électorale et arrêter des candidats. Donc, et par ailleurs, également, empêcher la commission qui allait, la mission de l'Union européenne qui allait préparer la commission d'observation des élections de venir. Donc, il y a eu de la part d'Israël des manœuvres d'obstruction, une tentative de mettre ça sur le dos des Palestiniens.
Dans ce cas, de votre point de vue, qu'est-ce qui a donc déclenché, quel est le facteur qui a déclenché, peut-être on peut dire la goutte qui a fait déborder le vase?
Écoutez, je crois qu'on oublie quand même, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé à Jérusalem, il ne faut évidemment pas oublier tout ce qui s'est passé avant, parce que quand même ce qu'on voit...
Vous voulez dire les expulsions des familles palestiniennes?
C'était la tentative d'expulsion de familles palestiniennes, c'est qui se place dans un plan stratégique. Il y a un plan stratégique israélien de vider Jérusalem de sa population palestinienne, des maisons qui sont détruites aussi dans le quartier de Silouane, au pied de la vieille ville, tout ce qui est fait pour rendre la vie impossible aux Palestiniens de Jérusalem, et les éléments déclencheurs, effectivement la tentative d'expulsion
des familles palestiniennes
de Sheikh Jarrah, et les provocations de groupes fascistes extrémistes que je pense que M. Goslan doit rejeter autant que moi, je l'espère, qui se répandaient dans la ville de Jérusalem en criant mort aux Arabes. Par rapport à ça, la résistance a été une résistance populaire de la jeunesse de Jérusalem, non armée, qui a réussi aussi à imposer des choses, à imposer de pouvoir se réunir à nouveau à la porte de Damas, qui a repoussé les colons extrémistes qui voulaient aller sur l'esplanade des mosquées, qui a donc résisté à main nue de manière remarquable. Je pense qu'il ne faut surtout pas l'oublier quand on va parler aussi de ce qui se passe, des événements absolument dramatiques et nous, qu'on dit, va dire, scandaleux et épouvantables qui se passent aujourd'hui par les bombardements de Gaza.
Merci, M. Elbron. Alors, M. Dupuis, est-ce que vous êtes, quand vous voulez, pour vous évoquer les causes de cette nouvelle tension, est-ce que vous êtes proche des arguments avancés par M. Goslan ou plutôt ceux de M. Elbron? C'est quoi la réalité?
Je dirais les deux et j'en rajouterai un troisième. Il y a des élections israéliennes qui se sont déroulées le 23 mars dernier et qui n'ont pas donné une clarté politique suffisante pour asseoir la continuité du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou a tout fait pour essayer de jouer la stratégie de la tension et je suis assez d'accord avec l'idée que l'interdiction des élections de 2006, hein, il faut avoir à l'esprit, parce que les auditeurs n'ont peut-être pas compris, qu'il n'y a pas eu d'élection depuis 2006, et que ces élections ont été fortement attendues, et que le Benjamin Netanyahou a tout intérêt à jouer la cristallisation et à tout faire.
Donc si Mahmoud Abbas, pour vous, avait peur de perdre pour Netanyahou, il s'agit aussi de se relancer avec cette tension.
Il s'agit de se relancer politiquement et il s'agit de se relancer judiciairement. La constitution israélienne précise que s'il n'y a pas de gouvernement d'union qui est créé d'ici le 2 juin, on est de nouveau dans un scrutin électoral. Je rappelle de nouveau aux auditeurs que depuis avril 2019, ça serait le cinquième scrutin pour déterminer un gouvernement du changement qui, jusqu'à présent, est bloqué de facto par les événements, parce que ce gouvernement du changement qui aurait vu peut-être une fédération un peu hétéroclite, mais néanmoins qui était prête à gouverner ensemble, une sorte de gouvernance centriste avec le parti de Yair Lapid, Yair Chatid, le parti de Naftali Bennett, Yamina, et potentiellement, et c'est là où on en vient à la configuration de l'aggravation des événements en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, enfin d'abord à Jérusalem-Est, à Gaza, et désormais en Cisjordanie, avec la possibilité que le mouvement ex-Arabe Uni, donc la liste ex-Arabe Uni, désormais réunie sous le mouvement donc de Mansour Abbas, qui aurait pu faire partie donc à travers son parti RAM et ses 13 députés. Donc on est aussi dans une volonté très politique de la part de Benjamin Netanyahou de faire voler en éclats les possibles options alternatives à son pouvoir. Mais je suis assez d'accord avec l'idée développée par Eric Gosselin, à la fois dans son article et aujourd'hui, qu'il y a aussi une stratégie de la tension qui se joue sur la ville de Jérusalem. Et là-dessus, vous allez croire que je suis centriste, je fais la jonction avec ce qu'a dit M. Elbron, mais c'est vrai qu'il y a eu une volonté d'expulser et d'aller à l'encontre de la démographie israélienne telle qu'elle est aujourd'hui. Hein, la population juive, c'est 73%, 21,1% du reste est une population palestinienne. Et puis, c'est particulièrement sensible dans Jérusalem, puisque la population juive de Jérusalem ne cesse de diminuer. Elle ne représente plus que 60% quand elle représentait 75% en 1967.
Merci, Monsieur Dupuis. En sachant que sur cette question de tentative d'expulsion, la justice avait finalement décidé de reporter sa décision sur la question. Nous allons poursuivre notre débat dans quelques petites minutes, messieurs. Et pour parler encore, bien entendu, de ce conflit qui oppose Israéliens et Palestiniens.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et on débat dans votre émission ce soir la crise au Proche-Orient, des chances de désescalade. Et nous en débattons avec trois invités. Eric Gosselin, franco-israélien, auteur de l'article « Nouvelles tensions entre Israël et Palestine, les raisons ». Bertrand Elbron, président de l'association France-Palestine Solidarité. Et Emmanuel Dupuis de l'IPSE, président de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Monsieur Gosselin, est-ce que vous considérez aussi que la querelle qui oppose Israéliens et Palestiniens sur le statut de Jérusalem a aussi contribué à cette tension à laquelle on assiste?
Alors, si vous voulez bien, d'abord, je voudrais revenir sur ce qui a été dit juste avant la publicité. Tout d'abord, je voudrais vous dire que Israël n'est pas en guerre avec les Palestiniens. Mais cette guerre est contre le Hamas. Et c'est une grande différence. Et n'oublions pas que le Hamas est par le monde entier considéré comme un mouvement terroriste.
Oui, c'est clair, vous êtes contre le Hamas qui contrôle la bande de Gaza, mais il reste que d'autres villes palestiniennes sont concernées par le conflit, sont même désormais impliquées, que ce soit la Cisjordanie ou Ramallah. Donc,
mais on voit qu'il n'y a pas d'émeute là-bas. Oui. Alors, je voudrais revenir sur ce qui a été dit pour que les auditeurs connaissent à peu près l'histoire de l'affaire des expulsions. Donc, comme vous l'avez dit, madame, la Cour suprême doit rendre une décision dans les jours qui viennent. Mais quelle est la genèse de cette histoire? Ce quartier, Sheikh Zahra, est un quartier de Jérusalem qui est à côté de la vieille ville, à 3-4 kilomètres. Et ce qui s'est passé, avant la création de l'État hébreu en 48, les maisons appartenaient à une famille juive. À la fin de la guerre de 48, comme on le sait, tout Jérusalem, ce quartier, est passé sous contrôle de la Transjordanie, la Jordanie actuelle, et les habitants juifs ont été purement et simplement expulsés. En 67, la fin de la guerre des six jours, et le gouvernement israélien fait une nouvelle loi qui permet aux anciens habitants des Kibboutz expulsés de récupérer les biens. Donc il y a une longue bataille juridique qui commence, et les autorités judiciaires ont statué en 73 que ces biens appartenaient à ces familles juives. Depuis, ça a été très calme, et depuis quelque temps, les familles arabes ont demandé que la Cour rejuge cette affaire, et la Cour est en train de juger.
Donc, d'accord, la Cour qui avait déjà rendu une première décision en faveur des Juifs. Excusez-moi, M. Gosselin.
Il n'y a pas d'expulsion en ce moment.
Pardon, pour le moment, on ne fait pas une émission de décryptage pour comprendre. Non, voilà. Oui, parce que ce que vous dites, on n'a pas la même. Les Palestiniens n'ont pas la même analyse de ce que vous allez dire.
Désolé, mais c'est le droit.
Oui, mais on
parle du droit.
Ce n'est pas ça le débat, M. Gosselin, s'il vous plaît. On essaye de comprendre.
On a dit quelque chose, madame. M. Elbron a parlé de l'expulsion. Donc, je vous dis, et croyez-moi, je suis plutôt de gauche, mais j'aime le droit. Au niveau des émeutes de Jérusalem, je voudrais revenir sur quelque chose. Je voudrais rappeler à tous vos auditeurs que depuis les accords Wadi Arabia de 1994, c'est la Jordanie qui est garante de l'esplanade des mosquées. Ce n'est pas Israël. Il ne faut pas l'oublier. C'est la Jordanie qui est garante. Et comment ça se fait? Laissez-moi terminer, après j'arrêterai. Comment ça se fait que des milliers... Il y avait à peu près 80 000 personnes. À peu près 70 000 personnes sont parties en silence et il n'y a pas eu, quand on voit les images télévisées, il n'y a pas eu d'émeute. Seulement quelques casseurs sont venus et vous pouvez m'expliquer comment ça se fait qu'il y avait dans la mosquée El-Aqsa, qui est un endroit saint, comment ça se fait qu'il y avait des amas de pierres?
Mais vous admettez, M. Gosselin, qu'il y a une bataille aujourd'hui, une mésentente claire aujourd'hui entre Palestiniens et Israéliens sur le statut de cette ville de Jérusalem.
Bien sûr. Alors, pas seulement entre Israéliens et Palestiniens, il y a aussi les chrétiens orthodoxes qui ont leur mot à dire, il ne faut pas oublier.
D'accord. Je vais me retourner à nouveau vers vous, M. Elbron. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée claire de la position des pays arabes sur cette question, cette crise? M. Gosselin disait que l'une des raisons pour lesquelles Hamas, selon lui, a créé l'escalade, c'est que les Palestiniens voient que cette crise n'est plus dans l'agenda international. Aujourd'hui, concrètement, qui porte encore cette cause palestinienne?
Alors, je voudrais juste avant, dire deux mots par rapport à ce qui a été dit sur Jérusalem. Alors, ce n'est pas une querelle entre Israéliens et Palestiniens, c'est une guerre de conquête qui est contre tout le droit international, tel qu'il a été dit, répété par l'ONU, le Conseil de sécurité. La justice n'est pas...
L'ONU qui avait même proposé que Jérusalem ait un statut international.
Jérusalem doit avoir un statut international, y compris la France. En décembre 2017, quand Trump a voulu déménager son ambassade à Jérusalem, a rappelé que Jérusalem, ouest comme est, n'appartient à personne tant qu'il n'y a pas d'accord entre Israéliens et Palestiniens. Je voulais juste dire que ça parlera peut-être à un certain nombre de vos auditeurs qu'une justice coloniale n'est pas une justice. Et donc, on ne peut pas se référer à la Cour suprême israélienne par qui applique une loi qui donne des droits aux Juifs qu'ils ne donnent pas aux Arabes. Il faut se dire aussi que si on parle d'un droit à revenir aux biens d'avant 48, tout Jérusalem-Ouest était habité par des Palestiniens et ils en ont été expulsés.
D'accord.
Bon, ceux-là, ils n'ont aucun droit. Voilà, je vais juste rappeler ça, parce que quand on parle de la Cour suprême, quand on parle de la justice, il ne faut pas oublier ce qu'est une justice coloniale et une justice d'occupation. Maintenant, le fait de dire que ce qu'on a l'habitude d'appeler le conflit israélo-palestinien passe au second plan. Je suis désolé, mais on n'a pas attendu le Hamas pour montrer que non, il redevenait vraiment important
Il faut,
mais quand on écoute les positions de la France, Macron a encore, à l'issue d'une rencontre avec le président égyptien Al-Sisi, donné une position plutôt diplomatique, appelé les deux parties à l'apaisement, donc sans réellement prendre parti. Quand on écoute Mme Merkel, la chancelière, elle exprime son soutien, sa solidarité à Israël, n'en parlant plus pour la position des États-Unis. Alors finalement, aujourd'hui, est-ce que ce conflit est vraiment encore dans l'agenda international? Si oui, comment il est porté par la communauté internationale?
Mais écoutez, je pense que la France, par la position de M. Macron, va à l'encontre de ses responsabilités historiques. C'est quand même par l'action de nos pays occidentaux, notamment l'Angleterre et la France, que le Moyen-Orient, qui était plutôt une région de coexistence paisible entre des personnes d'origine très diverses, se retrouve effectivement dans un conflit de conquête de territoire. Et par rapport à ça, la France a fait partie, avec beaucoup de pays européens, de ceux qui ont poussé effectivement les Palestiniens à accepter une solution à deux États, mais n'a rien fait pour que ce cadre-là, qui était quand même un gros sacrifice pour les Palestiniens, soit mis en œuvre. Et donc cela
l'élément. Mais est-ce que la position des pays arabes aujourd'hui, on peut évoquer le cas du Maroc qui a rétabli ses relations avec Israël et bien d'autres pays, le Soudan, est-ce que la position des pays arabes aujourd'hui ne donne pas une sorte de légitimité à celle des autres pays, notamment européens, dont on vient de parler?
Écoutez, je me demande quand même si on n'est pas, en parlant effectivement de ces accords d'Abraham, etc., dans une époque qui est celle d'avant, c'est-à-dire l'époque Trump. Je pense que le plan Trump a vécu, que cette tentation de Trump de dire on va court-circuiter totalement la question palestinienne et avoir des accords entre Israël et les pays arabes en laissant de côté les droits du peuple palestinien, elle est derrière nous. Je pense que le débat politique fait rage, y compris au sein même de la société, de la société des États-Unis. Je pense que un très grand nombre d'Américains, y compris juifs de la communauté juive, ne sont pas du tout d'accord avec les conceptions qui étaient avancées par Trump. Et donc on est en train de changer, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette espèce de glaciation de l'époque Trump. On est en train de changer d'époque. Je ne dis pas que Biden a pris des positions claires. On en est très très loin.
Parce que pour l'instant c'est le statu quo, c'est la décision de Trump qui reste. En place à Washington.
Oui, pour ce qui concerne l'emplacement de l'ambassade. Mais voyons ce qui va se passer. On voit bien quand même que toute cette tentative de dire il suffit d'ignorer la question israélo-palestinienne et peut-être de mettre quelques millions de dollars plus des accords par-dessus leur dos avec les pays arabes et tout sera réglé, la réalité montre que ça ne l'est pas.
Merci.
Et que ça ne l'est pas, ce n'est pas simplement un parti, le Hamas, c'est l'ensemble de la société palestinienne qui se soulève par rapport à ça. On a parlé de Jérusalem, où la plupart des jeunes qui se sont soulevés contre la situation qui leur était faite n'étaient affiliés à aucun parti. On peut parler des manifestations qu'il y a en Cisjordanie qui sont réprimées dans le sang, où là aussi, ça dépasse complètement la question des partis palestiniens. Et
merci.
Enfin, ce qui se passe dans les villes israélienne avec une part de population palestinienne sur laquelle on reviendra éventuellement un peu plus tard.
Je l'espère bien parce que quand chacun de vous prend la parole et la garde aussi longtemps, il y a beaucoup d'autres aspects qu'on ne pourra pas aborder parce que le temps s'égrène. Alors, Monsieur Dupuis, je maintiens la question de tout à l'heure. Aujourd'hui, quelle est la place de cette crise sur l'agenda international? Je mentionnais les positions de l'Europe.
Oui.
Voilà. Bah, écoutez, et puis celles aussi des pays arabes et des États-Unis.
Je vais faire court, mais je vais être précis et concis. La position de la communauté internationale est à l'aune de ce qui s'est passé hier au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est-à-dire que pour la énième fois, il y a pratiquement 230 résolutions qui traitent de la question israélo-palestinienne depuis la création de l'État en mai 1948 et bien évidemment depuis la première résolution, la résolution 181, qui date de 1947, appelant donc à la bicéphalité des deux États dans cette région du monde. Ce qui s'est passé hier à l'ONU, ce qui va se passer demain.
C'est l'échec à se mettre d'accord sur une déclaration.
À se mettre d'accord sur les termes d'une déclaration et ce qui va se passer demain à l'occasion de la réunion des 27 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne.
En visioconférence.
Qu'il n'y a aucune cohésion et qu'il n'y a pas plus de cohésion entre les pays arabes qu'il y a de cohésion entre les pays européens. Et que d'une certaine façon, la question israélo-palestinienne redevient un jeu de scission de part et d'autre de la scène internationale.
Juste une précision, est-ce que vous pensez...
Juste pour être précis,
voilà.
Hier, la résolution onusienne était portée par la Tunisie, par la Norvège, par la Chine et par la Russie. Et bien évidemment, elle ne pouvait pas être acceptée par la position américaine. De la même manière, les accords d'Abraham ne concernent pas tous les pays, ni l'ensemble des 15 pays de la Ligue arabe, et encore moins l'ensemble des 58 pays de l'Organisation de la coopération islamique, mais seulement les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc. Donc je ne crois pas qu'il faille dire que les accords d'Abraham sont un élément si déterminant que cela. Je suis assez d'accord avec ce qui vient de dire par M. Elbron, cela est le temps du passé. Le deal du siècle ne pouvait pas se réduire à troquer la légitimité des Palestiniens à avoir un État contre, même si la somme était absolument considérable, 70 milliards de dollars. Et je crois, au contraire, que la question palestinienne n'a jamais cessé d'être au cœur de l'actualité internationale, mais que, justement, c'est l'occasion de montrer quelles sont les positions que l'on veut défendre.
Est-ce que demain, l'Union européenne, les ministres des Affaires étrangères qui se réunissent, pourront être en mesure de parvenir à une position commune, au contraire du Conseil de sécurité de l'ONU ?
Je le vois difficilement quand le chancelier Sébastien Kurz a brandi un drapeau israélien sur la primature autrichienne. Je le vois très difficilement également quand la position d'Angela Merkel ne concerne que l'Allemagne d'aujourd'hui et peut-être pas celle de Anna-Lena Baerbock qui risque de gagner les élections. Anna-Lena Baerbock étant chef de file des Verts qui caracole en tête à l'occasion donc du prochain scrutin en septembre. Et je ne crois pas du tout qu'il y ait une cohésion entre les pays européens sur la question. Et d'ailleurs, la France se doit de se souvenir, peut-être qu'il faut le rappeler, qu'elle fut une des premières à reconnaître la Palestine.
L'interdiction de manifestation de samedi et les déclarations de Emmanuel Macron à l'issue d'une rencontre avec Al-Sisi vous rassure-t-elle ?
Non, elle ne me rassure pas, mais d'une certaine manière, vous avez vous-même donné la réponse. Ce n'est pas tellement important qu'Emmanuel Macron veuille faire la paix, parce que tout le monde sait que ce n'est pas à Paris que la paix sera faite. La paix sera faite comme en 2014, dans le cadre d'une négociation qui impliquera tous ceux qui étaient déjà à la manœuvre en 2014. L'Égypte, alors évidemment avec une configuration nouvelle, le président Sisi venait juste d'accéder au pouvoir, donc il était un petit peu hésitant. Là maintenant, il est, encore une fois, je ne vais pas ouvrir un débat, un petit peu plus assis dans sa capacité de négociation. Le Qatar a montré sa capacité de financement et son implication économique vis-à-vis de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. Ne pas oublier la Tunisie, d'ailleurs,
merci.
Il en est question aujourd'hui avec le dialogue qu'a le président Macron et le président Saïd.
Merci, monsieur Dupuis. À tout de suite.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Au cœur du débat ce soir, le conflit entre Israéliens et Palestiniens dans le Proche-Orient et les chances de désescalade. Nous en parlons avec Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE ici à Paris, Bertrand Elbron, président de l'association France-Palestine Solidarité et Iris Gosselin, franco-israélien et auteur de l'article « Nouvelles tensions entre Israël et Palestine, les raisons ». Messieurs, je vous prie d'être vraiment très bref dans vos réponses parce qu'il nous reste à peu près 7 minutes d'émission. Et je vais commencer par vous encore, monsieur Gosselin. Ce soir, je voudrais savoir, selon vous, qu'est-ce qui peut permettre aujourd'hui de sortir de la situation ? Et je mentionnais en début d'émission les initiatives prises par l'ONU et aussi les émissaires des Émirats Arabes Unis, mais aussi l'Égypte. Qu'espérez-vous de ces initiatives ? Et vont-elles aboutir ?
Pour moi, la meilleure chose, c'est qu'Israéliens et Palestiniens parlent ensemble, directement. Et je ne pense pas que les deux aient besoin d'un chaperon pour parler. On le voit avec l'autorité palestinienne. Tous les jours, il y a des dialogues. Tous les jours, il y a des échanges. Il y a des bureaux communs. Il y a même des patrouilles militaires communes. Donc franchement, on peut discuter tous ensemble.
C'est-à-dire même sans les États-Unis.
Même sans les États-Unis. Je vais vous dire, souvent, les meilleures choses se sont faites quand il y a un dialogue qui est direct. La seule chose, c'est qu'Israël doit savoir avec qui elle doit discuter. Parce que lorsqu'on discute avec quelqu'un du Fatah, tout de suite, quelqu'un du Hamas va dire non. Si une personne discute avec le Hamas, le Fatah va dire non. Donc, il faudrait savoir déjà avec qui les Israéliens peuvent discuter.
Si j'ai bien compris votre démarche, Monsieur Gosselin, avant, il faut des discussions directes, mais avant des discussions directes, il faudrait que les Palestiniens se mettent d'accord, c'est-à-dire que Fatah et Hamas s'entendent sur les interlocuteurs.
Qu'ils arrêtent de s'entretuer, parce qu'on ne parle pas du nombre de morts des gens du Fatah qui sont tués par le Hamas. Ça, on oublie de le dire. Et je voudrais revenir sur un petit détail.
S'il vous plaît, en 30 secondes.
Voilà, mais ça dure deux secondes. Sur l'aide des pays arabes à Gaza, je voudrais vous donner un chiffre. En 2019, les pays arabes ont donné 229 millions de dollars à Gaza. En 2020, 38 millions de dollars. Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu. C'est que le monde arabe se fout complètement de la bande de Gaza et des Palestiniens. Et je voudrais simplement vous dire quelque chose au niveau de l'argent, parce que malheureusement, l'argent est quand même la clé de toutes les choses. C'est que le Hamas a un fonds de roulement qui a été, c'est Forbes qui l'a dit, donc vraiment neutre, de 1 milliard de dollars par an. Et quand on sait que le salaire moyen à Gaza est de 135 dollars par mois. Donc la seule question que je me demande, c'est où va tout cet argent ?
Merci. Monsieur Elbron, pour vous, comment faire pour sortir de cette crise aujourd'hui ? La désescalade est-elle possible grâce aux initiatives en cours ?
Alors, il ne s'agit pas que de la désescalade, parce qu'on peut espérer effectivement que déjà...
Avant de négocier, il faut peut-être déjà commencer par là, au moins apaiser.
Hein, et là, on va peut-être avoir une énième mission de bons offices. Et la question, c'est vraiment d'arriver à résoudre la question palestinienne. Dire que les Israéliens et les Palestiniens parlent ensemble, ça c'est user jusqu'à la corde, demander à la poule et le renard, les enfermer dans une pièce et leur demander de discuter ensemble, on sait ce que ça donne. Kerry, de 2013 à 2014, a mené des négociations un peu sur cette base-là, mais en essayant de les patronner. Mais sans
John Kerry, l'ancien secrétaire d'État américain de Bill Clinton, Obama.
C'était la dernière tentative, ça n'a pas marché, parce que ça ne peut pas marcher. Israël continue à coloniser, et quand les Palestiniens...
Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors, en deux mots, M. Elbron ?
Alors, je pense que la première chose à faire, c'est de rétablir la justice, de rétablir le droit. Ce que demandent les Palestiniens, c'est d'être reconnus dans leurs droits, d'abord, avant tout. Ils sont soumis à un régime qui, au sens même de la définition de l'ONU, est un apartheid, c'est-à-dire une négation de leurs droits en tant qu'un groupe dont l'existence et les droits sont niés par un autre groupe. Tant qu'on ne rétablit pas cela, on n'y arrivera pas. Et les premiers gestes pour rétablir, arrêt de la colonisation, arrêt de l'occupation et...
Ce que demandent les Nations Unies aussi.
Et levée du blocus de Gaza, c'est les premiers gestes qui vont permettre effectivement, en rétablissant la circulation entre les Palestiniens, en rétablissant les droits à se déplacer, à vivre, à travailler. Ils n'ont pas besoin de l'aide extérieure, les Palestiniens. Ils ont des ingénieurs, ils ont des entrepreneurs, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils ne peuvent pas le faire.
Merci.
Ni sous occupation, ni sous blocus. Donc il faut les libérer de cette oppression, c'est la première chose. Et ça, pour cela, il faut un peu de courage de la communauté internationale.
Ce qui manque à maintenant, M. Dupuis ?
Oui, écoute, bien, c'est d'accord avec tout ce qui a été dit. Premièrement,
la communauté internationale manque-t-elle de courage pour prendre des bonnes décisions pour calmer le jeu ?
Elle a toujours manqué de courage, mais je crois que c'est pas seulement la communauté internationale qui peut solutionner la question. C'est aussi une question qui doit se solutionner entre les principaux belligérants, les principaux intervenants. Néanmoins.
Mais M. Elbron a dit que ce n'est pas la peine d'envisager des discussions directes parce qu'elles n'ont jamais abouti.
J'ai pas dit ça. Je ne rentre pas dans cette granularité-là, si j'ose dire. La première chose à mettre en place, c'est le respect des résolutions onusiennes. Déjà, comme je le disais, il y en a plus de 230. Ensuite, prendre en compte ce qui a été évoqué, vous citiez les Nations Unies, plus précisément le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, qui a exhorté le fait de mettre fin à l'expulsion forcée des Palestiniens. Je rappelle qu'en 2016, hein, la colonisation d'une partie du territoire palestinien, désormais près de 40%, si je ne m'abuse, peut-être même un petit peu davantage, est illégale. Néanmoins, les Américains, avec le président Donald Trump, n'ont pas reconnu l'illégalité de cette colonisation. Donc que les États-Unis remettent en cause cette décision. Je ne suis pas certain qu'ils le fassent pour le déplacement de l'ambassade. En tout cas, ils peuvent au moins dire qu'ils ne sont pas d'accord avec cette décision qui avait été prise par Donald Trump et que Mike Pompeo a poussé jusqu'à l'extrême, puisque lui-même est allé assister en décembre dernier à des expulsions dans le quartier de Jérusalem-Est. Dernier point, si vous me permettez, pour essayer d'optimiser un petit peu les choses.
En 15 secondes,
s'il vous plaît. Faire en sorte qu'effectivement, et là-dessus, je pense que la France doit se rappeler que c'est avec la déclaration de Venise, on remonte à juin 1980, qu'on a commencé à envisager la nécessité de reconnaître un État palestinien. Peut-être qu'il serait un peu temps de le faire officiellement. Merci. Depuis 2012, la Palestine a un statut de membre observateur.
Je suis désolée, Monsieur Dupuis, le temps est terminé. Président de IFSE, merci à Eric Golan, franco-israélien, et à Bertrand Elbron, président de l'association France-Palestine Solidarité. Merci à vous d'avoir suivi ce débat. Bonsoir.